Je vous laisse en compagnie de Thomas Cluzel pour le journal. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Comment relancer l'activité en France, plombée par la crise sanitaire et son corollaire, la récession? Emmanuel Macron et Édouard Philippe réunissent aujourd'hui à l'Élysée syndicats et patronats en quête de solutions. De leur côté, les marchés sont suspendus aux annonces de la BCE aujourd'hui, qui pourrait renforcer son arsenal monétaire face à la crise. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné ce matin l'État français dans l'affaire Marina Sabatier, cette affaire qui avait ému l'opinion publique et débouché sur l'adoption d'une réforme de la protection de l'enfant. Et puis, 8 mois après le spectaculaire incendie de Lubrizol, la commission d'enquête du Sénat a rendu son rapport ce matin. Commission qui pointe les défaillances de l'État dans la gestion de la crise. La réouverture des cafés, hôtels et restaurants signe le retour des jours heureux. Voilà comment Emmanuel Macron saluait cette semaine sur Twitter le passage en phase 2 du déconfinement en France, synonyme d'un quasi retour à la normale. Et de fait, ce retour des jours heureux, le président l'avait déjà fixé en réalité, on s'en souvient, comme un objectif lors d'une allocution en pleine pandémie de coronavirus. Or, l'expression n'avait pas été choisie au hasard, puisqu'elle faisait directement référence à l'intitulé du programme du Conseil national de la Résistance. Au point de s'interroger, cette formule répétée, donc, est-elle censée inaugurer un tournant politique radical? Certains aimeraient le croire, tant la crise actuelle ébranle aujourd'hui nos certitudes, à mesure qu'elle allume d'ailleurs en rouge tous les indicateurs macroéconomiques. Ce matin encore, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, a prévenu que le gouvernement avait revu à la hausse sa prévision de déficit public pour 2020. Et c'est donc dans ce contexte que cet après-midi, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont prévu de réunir syndicats et patronats en quête de solutions, notamment pour préserver l'emploi durement touché par la récession. Et sur ce point, il y a fort à parier que les revendications syndicales d'un côté et patronales de l'autre risquent en effet d'être nombreuses, mais plus encore divergentes, ce qui augure assez mal a priori de la possibilité de voir émerger rapidement le monde d'après. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Avec cette réunion, on imagine que l'exécutif en préparer sinon donc un monde nouveau, du moins la rentrée de septembre. Que faut-il en espérer? Doit-on s'attendre, Pierre, à un tournant dans le quinquennat d'Emmanuel Macron?
En effet, l'exécutif prépare la rentrée, cet après municipal qui s'annonce sombre pour l'emploi et l'activité économique, avec une explosion attendue des faillites et des licenciements dans des domaines sinistrés, hôtellerie, restauration, automobile, aéronautique, événementiel, culture, la liste est longue. Autant dire que cette réunion à l'Élysée, tout à l'heure, ce dialogue social engagé avec les partenaires sociaux, est tout d'un grenelle pour mettre en œuvre l'agenda social de la rentrée. Mais les attentes des syndicats et du patronat sont nombreuses et divergentes. Abandon de la réforme de l'assurance chômage, protection des salariés, apprentissage pour les uns, soutien aux entreprises, durée légale du temps de travail pour les autres. Souvenez-vous de ce que disait le chef de l'État au tout début de cette crise sanitaire, qu'il faudrait tirer les leçons de cette épreuve, quoi qu'il en coûte, se réinventer. On y est, les indicateurs sont dans le rouge, la pauvreté augmente, la priorité pour les Français. Et donc, pour Emmanuel Macron, c'est à présent l'économie, sauver l'économie. Emmanuel Macron engage donc une nouvelle phase de son quinquennat, peut-être la plus délicate. Pour ce faire, il associe les représentants des élus, des territoires, à commencer par les présidents de l'Assemblée et du Sénat, Richard Ferrand, Gérard Larcher, ainsi que Patrick Bernarsconi, le président du Conseil économique et social et environnemental. Il leur demande de faire des propositions très rapidement, car d'ici le 14 juillet, le chef de l'État doit prendre la parole pour présenter son projet, cet acte droit du quinquennat attendu, réclamé par l'aile gauche de sa majorité.
Merci Pierre Neveu. Alors on le voit, parce que la crise du coronavirus aura exacerbé des inégalités qui préexistaient, de nombreuses voix s'élèvent à présent pour réclamer un meilleur partage des richesses. Même le fondateur du Forum économique mondial, qui se veut à l'avant-garde d'un monde en perpétuelle mutation, a déclaré vouloir s'engager à construire un système économique et social pour un avenir plus juste et annoncé que l'édition 2021 aurait lieu sous l'enseigne de la grande réinitialisation et serait consacrée à remettre les priorités à jour. Alors, en attendant l'émergence encore hypothétique d'un monde meilleur, de premiers gestes ont été faits ces dernières semaines, notamment en France. Certains dirigeants ont diminué leur rémunération. Quand une partie de leurs salariés était en chômage partiel, des entreprises ont suspendu ou réduit le versement des dividendes, parfois contraints par le gouvernement qui en a fait l'une des conditions de son soutien. Des partis de gauche au mouvement syndical, nombreux sont ceux également à plaider pour le rétablissement de l'impôt sur la fortune supprimé. Enfin, aujourd'hui même, l'Assemblée nationale examine une proposition de loi de la France insoumise entreprises visant notamment à plafonner les frais bancaires, à encadrer la sous-traitance, mais aussi à déclarer la nécessité du rachat de la dette publique par la Banque Centrale Européenne et de sa transformation en dette perpétuelle. Alors pour leur seule certitude, la BCE devrait renforcer ce jeudi son arsenal de soutien à l'économie bien au-delà des mesures d'urgence dégainées au printemps dernier. Le programme visant à limiter les effets de la pandémie initialement doté de 750 milliards d'euros pourrait ainsi être gonflé de 500 milliards. Et puis, comme les États de la zone euro s'endettent de manière exponentielle, sans parler d'un possible emprunt européen à venir, les gardiens de l'euro vont également discuter de la clé de répartition des rachats de dettes souveraines prévues pour refléter la part de chaque État membre dans son capital. Or, à ce titre, Marie Viennot, des écarts par rapport à cette règle ont d'ores et déjà été observés.
La Banque Centrale Européenne a commencé à acheter des titres de dette publique de la zone euro en 2015. Pour ne pas soutenir un État plus qu'un autre, ces achats étaient limités en pourcentage, la règle étant de ne pas posséder plus de titres de dette que la part du pays dans son capital. Cette part est fonction du poids économique des États. L'Allemagne a 26% du capital de la BCE. La règle avant la pandémie, c'était donc pour la BCE de ne pas détenir plus de 26% de la dette publique allemande, pas plus de 20% pour la France, 16% l'Italie et ainsi de suite. C'est cette règle qui a volé en éclats avec le nouveau programme spécial pandémie lancé mi-mars. Sur les 750 milliards prévus pour ce plan, 235 ont déjà été dépensés par la BCE, dont 37 milliards d'euros de dette italienne, alors que si la BCE avait respecté les pourcentages antérieurs, elle n'aurait acheté que 29 milliards d'euros. Aujourd'hui, la BCE possède donc 19% de la dette italienne et non plus 16%. L'Italie est la grande gagnante de ce plan spécial pandémie avec l'Espagne et la Belgique. La France, en revanche, s'est vue racheter 23 milliards d'euros de dette par la BCE alors qu'elle aurait pu prétendre à 35 milliards. La répartition de ces achats sera donc l'un des sujets de la réunion des gouverneurs des banques centrales de la zone euro aujourd'hui, car c'est une entorse plus marquée encore aux traités qui interdisent à la BCE de financer les déficits des États par la création monétaire. Et le risque juridique donc grandit autour de ces programmes. Comme ils sont pour le moment la bouée de sauvetage des États, possible cependant que la BCE décide aujourd'hui d'en augmenter encore le montant.
Et toujours sur ce débat donc autour de l'annulation de la dette versus l'austérité à venir, je vous renvoie à la dernière Bulle Écho à réécouter sur le site de franceculture.fr. Alors que l'Allemagne, durement affaiblie par la crise du coronavirus, s'attend à connaître sa plus forte récession depuis 45, la chancelière Angela Merkel a annoncé hier un gigantesque train de mesures de 130 milliards d'euros sur 2 ans pour stimuler son économie, un plan de relance historique donc visant notamment à renforcer le pouvoir d'achat et à soutenir l'industrie, fortement dépendant des exportations, même si le point le plus discuté sans doute aura été la mise en place d'une prime à l'achat pour soutenir le secteur automobile. C'est une correspondance à Berlin signée Ludovic Piétenu.
C'est le deuxième étage de la fusée, le deuxième plan de relance présenté depuis le début de la crise sanitaire. Le vice-chancelier ministre des Finances, le social-démocrate Olaf Scholz, avait qualifié au mois de mars le premier stimulus de bazooka, une image censée démontrer la puissance de frappe de ce plan de soutien historique, plus de 1100 milliards d'euros. Les ménages et les entreprises ont besoin d'un coup de pouce supplémentaire. Ce sont donc ces 80 milliards d'euros d'aide immédiate, dont 20 milliards consacrés à la baisse de la TVA de 19 à 16%. Le taux réduit passe de 7 à 5. Tout cela seulement pour 6 mois, de juillet à décembre. 11 milliards pour abaisser le coût de l'électricité. Pour chaque famille, un bonus de 300 euros par enfant et des allègements fiscaux pour les entreprises qui sont aussi autorisées à reporter sur les 2 prochaines années leurs pertes. Deuxième volet de ce méga paquet de mesures, comme le qualifie ce matin le quotidien Bild, 50 milliards pour la modernisation et le verdissement de l'économie allemande. La production d'hydrogène et la voiture électrique doivent devenir demain les 2 piliers importants du pays. L'industrie automobile, en pleine transition, sera soutenue, mais uniquement via une prime à la casse pour l'achat d'un véhicule électrique. En aucun cas, comme il était un temps question du côté des conservateurs, pour une nouvelle voiture essence ou diesel. Le gouvernement fédéral préfère consacrer un peu plus de liquidités pour combler l'un des grands retards de la première économie d'Europe, le numérique et la digitalisation de son administration.
Aux États-Unis, les nouvelles inculpations dans l'enquête sur la mort de George Floyd seront-elles de nature à calmer la contestation? Hier, le nouveau procureur en charge de l'affaire a décidé de requalifier en meurtre le chef d'accusation retenu contre l'ex-policier impliqué dans la mort de l'homme de 46 ans, mais aussi de poursuivre les trois agents qui l'accompagnaient lors de l'intervention, une première dans l'histoire du Minnesota. Et puis, pendant que la justice avance donc à Minneapolis, la pression continue de monter à Washington. Hier, en désaccord apparent avec le locataire de la Maison Blanche, le secrétaire à la Défense Mark Esper s'est dit opposé à l'idée de déployer les soldats dans les grandes villes. Le ministre a même ordonné aux militaires présents dans la capitale de quitter la région avant finalement de revenir sur sa décision quelques heures plus tard. Et puis surtout, c'est son prédécesseur Jim Mattis qui est à son tour monté au créneau hier pour accuser le président de diviser l'Amérique. Nathalie Hernandez, bonjour.
Bonjour.
Alors aussitôt, Donald Trump s'est déchaîné sur son canal favori Twitter, qualifiant le général de chien fou, un accès de colère qui ne fait que souligner un peu plus encore, Nathalie, le caractère tout à fait exceptionnel d'une telle intervention de la part de l'ex-patron du Pentagone.
Oui, car la coupe était sans nul doute pleine pour l'ex-ministre de la Défense. Jim Mattis, vous vous en souvenez sûrement, était resté silencieux depuis sa démission en 2018. Il était parti en raison de ses désaccords avec Trump sur le retrait des troupes américaines de Syrie notamment. Mais aujourd'hui, le très estimé ancien général des Marines accuse Donald Trump est le premier président que je vois qui ne tente pas d'unir le peuple américain et il ne feint même pas d'essayer, écrit-il consterné dans son point de vue intitulé « L'union fait la force ». A contrario, Donald Trump essaie de nous diviser depuis trois ans. Nous sommes les témoins des conséquences de cet effort délibéré, de cette gouvernance immature, assène Jim Mattis. Quant à la volonté du président américain d'envoyer l'armée pour mater les manifestants, s'appuyant sur une loi anti-insurrection de 1807, c'est tout simplement inimaginable pour Jim Mattis. Quand j'ai rejoint l'armée, j'ai juré de soutenir et de défendre la Constitution. Je n'ai jamais pensé qu'on ordonne à des soldats ayant prêté le même serment de violer les droits constitutionnels de leurs concitoyens. Encore moins, ajoute-t-il, pour permettre au président d'aller se faire photographier avec les chefs militaires à ses côtés. Référence à la photo de Donald Trump, Bible à la main, devant une église de Washington. Pour Jim Mattis, la poignée de casseurs ne doit pas occulter le message porté par des dizaines de milliers de personnes qui attendent, dit-il, que nous soyons à la hauteur de nos valeurs. Cela passera par un nouveau chemin, conclut Jim Mattis, un retour aux idéaux fondateurs, de l'Amérique.
Merci Nathalie Hernandez. Après avoir drastiquement réduit ses liaisons aériennes pour cause de coronavirus, la République populaire de Chine a annoncé aujourd'hui que toutes les compagnies étrangères pourraient reprendre un nombre limité de vols à compter de lundi prochain. Une décision qui fait suite en réalité à la menace brandie la veille par Washington de suspendre tous les vols de compagnies chinoises aux États-Unis. Alors on le sait, voilà plusieurs mois maintenant que les relations sino-américaines se sont, disons, envenimées. En l'occurrence, le dernier dossier le plus brûlant concerne Hong Kong. La Chine a décidé, vous le savez, d'imposer à l'ex-colonie britannique une loi controversée sur la sécurité nationale et preuve que le territoire semi-autonome ne bénéficie plus aujourd'hui de l'autonomie promise par Pékin. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, les Hongkongais qui traditionnellement commémorent le massacre de Tiananmen n'ont pas été autorisés à participer aujourd'hui au traditionnel rassemblement du souvenir. Un suivi sanitaire problématique, des moyens insuffisants et une communication ratée. Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas là d'un résumé de ces derniers mois de crise liée au coronavirus en France, mais du rapport de la commission d'enquête du Sénat rendu ce matin suite à l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Le 26 septembre dernier, près de 10 000 tonnes de produits chimiques étaient parties en fumée dans cette usine de lubrifiants automobiles ainsi que sur le site de son voisin Normandie Logistique. Et 8 mois donc après les faits, les sénateurs dénoncent aujourd'hui l'attitude du gouvernement dans la gestion de cette crise et pointent notamment, Rosalie Lafarge, des angles morts inacceptables dans la prévention des risques industriels.
Il y a d'abord l'attitude de l'État en amont, rappelle le président de la commission, le sénateur centriste Hervé Maurey, appuyé par la rapporteure, les Républicains Christine Bonfanti-Dossat.
C'est quand même extraordinaire de voir que dans le cas de Lubrizol, vous avez un certain nombre de recommandations qui sont faites 18 mois avant les événements, et on constate qu'on n'en a pas tenu compte.
Cela quand même accrédite l'idée d'une certaine mansuétude de l'administration vis-à-vis des industriels.
Voilà pour l'amont, il y a ensuite eu la gestion de crise au jour le jour, et là non plus le gouvernement n'a pas été à la hauteur, à en croire le sénateur centriste.
Cette cacophonie gouvernementale, Les ministres se sont succédés, ils ont fait des déclarations qui parfois se sont contredites. Le gouvernement a voulu à tout prix rassurer. Et je crois que ce qui est nécessaire, c'est pas de rassurer, c'est d'informer.
Et puis il y a l'après-incendie. Et là encore, le Sénat relève bon nombre de ratés, notamment dans la méthodologie pour le suivi sanitaire adoptée par le ministère de la Santé, alors piloté par Agnès Buzyn.
Le manque de volonté est manifeste.
La rapporteure Christine Bonfanti-Dossa.
L'ARS et Madame Buzyn défendent le point de vue selon lequel il faut savoir ce que l'on cherche pour chercher. Si on attend des certitudes spécifiques pour lancer des enquêtes de santé, on n'avancera pas.
Il est urgent de revoir la doctrine de communication de crise de l'État, écrivent les sénateurs dans leur rapport. Urgent aussi d'arrêter avec les effets d'annonce. Et cette fois, c'est Elisabeth Borne qui est visée. L'objectif affiché par la ministre de la Transition écologique d'augmenter de 50% les contrôles des sites industriels classés d'ici 2022 est tout simplement, selon la commission d'enquête, peu réaliste.
L'État français a-t-il failli dans son obligation de protéger la petite Marina contre les agissements de ses parents ? Réponse, oui, dans un arrêt rendu ce matin, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour sa responsabilité dans la mort de la fillette décédée en 2009 après avoir subi de multiples sévices durant des années. L'affaire, on s'en souvient, avait profondément ému l'opinion publique, en l'occurrence Margot Delpierre. Un signalement au titre de la protection de l'enfance avait été fait l'année précédant la mort de Marina, alors âgée de 7 ans, mais le parquet du Mans à l'époque avait classé le dossier sans suite.
Pour la première fois, la responsabilité de l'État français est reconnue dans cette affaire. La Cour estime que la France a violé l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il interdit la torture, les traitements inhumains ou dégradants. Pour comprendre, il faut remonter au mois de juin 2008. À l'époque, la directrice de l'école de Marina avait adressé un signalement au procureur de la République du Mans et au président du Conseil général, inquiète de ne pas voir la petite fille en classe. Elle savait que dans l'ancienne école de Marina, qui déménageait souvent, on soupçonnait une maltraitance. Ce signalement a déclenché, selon la Cour, l'obligation positive de l'État de procéder à des investigations. Mais voilà les mesures prises par les autorités entre le moment où est lancée cette alerte et la mort de l'enfant n'ont pas été suffisantes pour protéger la petite fille des abus de ses parents. Elle a bien été examinée par un médecin légiste à l'été 2008 en présence de son père et le médecin n'avait pas pu exclure des faits de violence ou de mauvais traitement. Mais en octobre, le parquet classe le dossier sans suite. Moins d'un an après, la petite fille est retrouvée morte. Entre les deux, elle a été hospitalisée un mois aux urgences pédiatriques, avait de nombreuses blessures dont l'origine semblait incertaine et deux intervenantes des services sociaux se sont rendues au domicile de l'enfant, mais elles ont estimé qu'il n'y avait pas d'inquiétude particulière à avoir. C'est toute une série de négligences et de manquements par les services d'enquête et du parquet qui a conduit à la mort de Marina, estiment deux associations à qui la Cour européenne des droits de l'homme donne aujourd'hui raison après des années d'attente.
12h et presque 48 minutes sur France Culture, l'heure de retrouver l'invité politique de la rédaction. Aujourd'hui, Sandra Regol, secrétaire nationale adjointe chez Europe Écologie Les Verts. Bonjour madame.
Bonjour.
Et au téléphone également pour vous interroger, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Une première question, madame Regol, alors que sur le front sanitaire, la situation semble se calmer, du moins pour le moment, ce sont aujourd'hui les conséquences économiques de la crise du coronavirus qui préoccupent le plus grand nombre. Est-ce que vous craignez que l'écologie en fasse les frais ?
Alors, c'est bien normal qu'après la peur du virus, la peur des suites, et donc des suites économiques, soit prégnante et prenne un peu le pas sur tout le reste. Mais je rappelle que la transmission des coronavidés, c'est cette famille de virus dont est issu ce Covid-19, est liée à l'activité humaine. Quand elle fait passer les enjeux financiers et donc l'accaparation des ressources naturelles avant la protection de l'environnement et des économies locales. Donc les conséquences économiques aujourd'hui sont directement liées à notre action sur la planète, sur la nature et sur le vivant. Et donc, si l'on veut être en capacité de réagir à cette crise, d'apporter des réponses à cette crise, on ne peut continuer à laisser la question environnementale et la question écologique plus globalement sur le côté, sinon ce ne sera que refaire les mêmes choses. Et j'ai bien l'impression, quand j'entends le camp libéral et les droites en général, que l'objectif semble être de reprendre comme avant, mais en pire, notamment sur le droit du travail, notamment sur le droit de l'environnement.
Une question de Stéphane Robert.
On commence quand même à voir les conséquences de la crise sanitaire en matière économique, notamment avec une forte progression du chômage. Est-ce qu'il n'y a pas pour autant une nécessaire remise en état et en route de la machine économique et du coup, de quelle manière est-ce que c'est conciliable avec la mise en œuvre de politiques durables en matière d'environnement ?
Vous savez, ça fait des années que les écologistes expliquent que pour créer de l'emploi, il faut investir dans des emplois d'avenir, ce qu'on appelle vulgairement les emplois verts. Et ces emplois d'avenir-là, on les a chiffrés. On n'est pas les seuls à les avoir chiffrés, des associations l'ont aussi fait, des économistes l'ont aussi fait. Et on sait aujourd'hui qu'à moyen terme, on peut créer 1 million d'emplois supplémentaires. Ne serait-ce que dans la transition énergétique, c'est 900 000 emplois bruts que l'on est en capacité de créer selon l'ADEME. Donc vous voyez que si on veut relancer la machine économique de façon durable, permettre de développer des emplois à travers les territoires, c'est sur la transition écologique que l'on peut s'appuyer demain. Mais, il y a un gros mais, aujourd'hui, les tenants du statu quo refusent cette évolution, refusent que les choses changent, parce que la conséquence, c'est aussi qu'il n'y a plus une accaparation des richesses par une toute petite partie de la population mondiale, mais qu'il y a une plus juste répartition des richesses en respectant mieux l'environnement. Vous voyez bien là que quand les rênes du pouvoir sont aussi les premières concernées, on a du mal à évoluer. Pourtant, je crois aujourd'hui que la France, l'Europe, ont besoin de miser sur des projets d'avenir, des projets qui peuvent faire de la France et de l'Europe les leaders mondiaux dans la transition écologique de l'économie, et que si on rate ce coche, on le rate pour l'avenir de la planète et on le rate pour l'avenir de notre économie.
L'actualité pour Europe Écologie Les Verts, ce sont évidemment les élections municipales, avec un second tour le 28 juin. L'enjeu majeur pour vous était de savoir si vous alliez confirmer le bon score des européennes, dont acte. À l'issue du premier tour, vous êtes en position de vous maintenir dans un peu plus de 120 villes, soit 6 fois plus qu'en 2014. Cette progression paraît pourtant plus incertaine en vue du second tour. Est-ce que d'abord vous craignez de faire les frais de la primo-sortant qui pourrait s'exprimer massivement ?
Alors, on peut craindre plein de choses, mais on peut aussi construire. Évidemment que ces élections municipales se font dans un contexte qui ne ressemble à aucun autre. La peur du virus, le confinement, le fait qu'il y ait 3 mois entre les 2 tours, tout ça ne ressemble à rien de normal. Cependant, malgré un électorat qui s'est fortement abstenu, puisqu'on a des études sur quels électorats se sont abstenus, et c'est à 56 ou 58% l'électorat écologiste qui s'est abstenu au premier tour, là où les autres électorats ne se sont abstenus qu'autour de 30% pour les plus hauts. Malgré ce, on constate de très bons scores à ce premier tour. Et vous pensez que le second ne sera peut-être pas aussi bon ? Je n'en ai pas l'impression. Si je m'appuie sur le seul sondage que l'on ait aujourd'hui, celui qui concerne la ville de Toulouse, il dit qu'en union, et c'est ce qu'on a fait, cette ville peut être gagnée par un maire écologiste qui s'appelle Antoine Maurice. Je pense qu'à Lyon, à Bordeaux, à Besançon, dans plein d'autres endroits, ça peut être la même chose. En tout cas, nous allons tout faire pour permettre aux habitants et aux habitantes de ces villes de bénéficier de ce qu'ont fait d'autres maires à Schiltigheim, à Grenoble, et d'améliorer leur vie au quotidien.
Vous venez de citer plusieurs villes où des alliances ont été possibles. Ça n'a pas toujours été simple, les alliances, notamment à gauche. Ça n'a pas été possible notamment à Strasbourg, ça n'a pas été possible à Lille, ça n'a pas été possible au Havre. Est-ce que vous le regrettez ? Comment vous l'expliquez ?
Alors, des alliances, c'est jamais simple, parce que si c'était simple, on serait toutes et tous dans la même partie. Donc, forcément, il y a toujours des compromis à faire pour arriver à avancer ensemble. Mais j'ai plutôt l'impression, puisque vous avez cité les exceptions, que la règle est que nous avons réussi à trouver des accords. Et l'exception, c'est quand on rencontre des personnes qui appartiennent encore à un plus vieux référentiel. Vous faites référence à Lille et à Strasbourg, où les candidates socialistes sont des candidates historiques de l'histoire du socialisme et qui ont fait le choix de ne pas prendre en compte ce qui change aujourd'hui dans la société, à savoir le paradigme écologique. Et de fait, leurs accusations, pour reprendre celles de Madame Trottmann par exemple à Strasbourg, c'est de fustiger une vision de l'écologie coercitive et des pratiques d'extrême gauche. Les mêmes termes sont utilisés sur l'extrême gauche par Martine Aubry aussi à Lille. Il me semble que tout électeur pourra constater que les propositions écologistes sont écologiste et pas d'extrême gauche, et que cette espèce de distanciation, de termes utilisés quasiment comme des insultes, n'ont qu'une fonction, c'est faire croire que nous ne sommes pas écologistes, mais que nous sommes autre chose, c'est-à-dire que nous sommes de leur histoire politique. Je pense que les électeurs et les électrices sont parfois plus intelligents que leurs responsables politiques, et en tout cas, je l'espère, c'est fort dommage que nous n'ayons pas réussi à trouver d'accord, mais nous n'allons pas nous arrêter devant ce petit écueil.
Et on terminera par ces mots. Merci Sandra Regol, secrétaire nationale adjointe chez Europe Écologie Les Verts, d'avoir répondu à notre invitation, ainsi qu'à Stéphane Robert. On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui, avec encore de fortes pluies à l'est, 5 départements, les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse ont été placés en vigilance orange. À l'arrière, le ciel sera variable. Quant aux températures, en forte baisse, elles afficheront entre 15 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nathalie Lopez. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.